Neve. Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, il est question cette semaine de la guitare de Franz Schubert avec une question en cette penultième émission sur quoi jouer la sonate arpeggione de Franz Schubert et avec une réponse, David Mestri. Bonjour David.
Bonjour Jean-Luc.
Avec une réponse.
Sur un arpeggione.
Oui, soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Je vous joue un petit peu du début.
Un arpeggione pour jouer l'arpeggione de Franz Schubert. Je suis bien d'accord, David Mestri. Mais encore faut-il le trouver, cet instrument?
Il a été construit, celui qu'on vient d'entendre, par Philippe Motterio, qui est un grand curieux devant l'éternel, et donc qui est l'organisateur de ces ateliers de musique ancienne de Gruyère, autour de la guitare de Schubert et autour de la guitare violoncelle, qui est l'autre nom de l'arpeggione, comme on vient de l'entendre.
On a eu quelques accents d'un stage de lutherie, une classe de guitare romantique. Aujourd'hui, il est question de cet instrument étrange venu d'ailleurs, j'allais dire, et qui y retourne puisqu'il ne reste plus beaucoup de cet instrument et très peu de littérature pour cet arpeggione.
Presque uniquement, en tout cas, ce qui est joué, c'est uniquement cette sonate de Franz Schubert, mais qui vaut la peine à elle toute seule de redécouvrir l'instrument. Et grâce à Amélie Chemin qui, lors du dernier concert de cet atelier de musique ancienne à la fin du mois d'août à Gruyère, Amélie Chemin donnait cette version, donc avec pianoforte, de l'arpeggione de Schubert. Elle nous en parle chez elle puisqu'elle est installée à Bâle, autour de ses différents violoncelles et viols de gambe. Elle est à la fois violoncelliste et gambiste quand elle ne touche pas l'arpeggio.
Avec une corniste alors.
Oui, et un trompettiste. Ah. Wow. Là, il y a le. Wow. Thanks.
Merci.
Voilà.
Je vais tout de suite allumer mon enregistreur. Comme ça, ça fait un peu comme un reportage là. J'ai tourné déjà dans l'escalier. Pardon ?
Donc avec la pique là.
Je pense que. Vous avez même un violoncelle avec une pique, donc c'est bien.
Donc ça, c'est un vrai violoncelle, non ?
Si Stradivarius vous entendez.
Ah oui, là, il serait le
plus. Qu'un violoncelle a une pique. Non.
Musique en mémoire.
Amélie Chemin, merci de me recevoir chez vous à Bâle. Vous êtes violoncelliste d'abord, mais j'imagine qu'à la Scola Cantorum où vous jouez ici, vous avez souvent l'occasion d'utiliser différents instruments. Et puis en entrant dans votre pièce ici, on voit toute une collection. Alors il y a une guitare, et il y a ce fameux arpeggione et puis une viole de gambe à côté, deux violoncelles, même avec une pique, ce qui est un instrument certainement un peu barbare pour quelqu'un qui joue de la musique ancienne ou bien.
Alors oui, à la base je suis violoncelliste moderne, j'ai fait beaucoup de musique contemporaine aussi et j'ai découvert la viole en 2001 par hasard et je suis tombée amoureuse de cet instrument et j'ai passé des concours et j'ai pu rentrer à la Scola Cantorum Basiliensis et après j'ai découvert aussi le violoncelle baroque, ce qu'on fait pas en général, normalement on passe du violoncelle moderne au violoncelle baroque. Moi, j'ai pris un autre chemin et depuis 2 mois, là, de cet été, j'ai découvert encore un autre instrument qui s'appelle l'arpeggione, fabriqué par Philippe Motterio. Et voilà, donc je me suis un peu amusée hein, au début, un peu arraché les cheveux, je dois bien le dire, parce que l'accord est complètement différent de la viole de gamme. Donc il y a bien six cordes, comme une guitare. En fait, c'est un accord de guitare, et malheureusement, ce n'est pas le même que l'accord de la viole. La viole est accordée en ré, et la tierce n'est pas au même endroit, donc rien à voir. Il a fallu que je réapprenne tout. Mais voilà, c'était un challenge et je crois qu'on l'a réussi en août.
Et comment est-ce que vous répartissez alors votre activité? Vous jouez sur les différents violoncelles, vous jouez de la viole dans différents ensembles?
Alors, j'enseigne, enfin, je donne des cours privés avec le violoncelle moderne. Je fais de l'orchestre. Là, on a fait un enregistrement cette semaine avec la Cetra, l'orchestre baroque de Bâle, au violoncelle moderne. Pardon, au violoncelle baroque. Et sinon, j'ai passé mon diplôme là en avril dernier à la viole de gamme.
Et vous jouez aussi de la viole de gamme avec
Alors
différentes
oui.
formations?
Alors plusieurs formations pour plusieurs petits groupes. La Fetto Cercato, ça c'est un groupe constitué de mon ami espagnol et un ami italien. Et on se retrouve de temps en temps pour pouvoir faire des concerts et aussi divers groupes. Là, on va monter un groupe de basse continue à Bâle. Voilà, donc là j'ai joué, je prends les deux instruments, la viole de gamme, la basse et le violoncelle baroque.
Que vous alternez alors suivant
Alors en
le
fonction du
répertoire.
répertoire, exactement, en fonction du répertoire, alors fruit baroque ou renaissance baroque, début baroque, j'utilise la viole et après, quand on aborde Vivaldi ou Handel, je prends le violoncelle baroque.
Ça dépend aussi du pays, alors parce que le violoncelle s'est imposé beaucoup plus tard, par exemple en France.
Voilà. Alors non, en France, mais je joue aussi de la basse de violon, voilà, qui est un ton plus bas que le violoncelle normal et qui était très utilisée en fait dans l'orchestre, plus que le violoncelle normal pour les musiques françaises surtout, Lully, etc. Et là, par contre, on a fait un projet en 2005 avec William Christie. On a fait l'Europe galante d'André Campra et là, j'étais à la basse de violon.
Qui est donc cet
Alors,
instrument qui est là, c'est un peu plus gros, c'est un autre
c'est un
instrument.
peu plus gros qu'un violoncelle baroque. La caisse de résonance est plus gros. Les cordes sont moins tendues, un ton en dessous. Donc, il faut transposer. Ça aussi, c'est assez étonnant à la base. C'est un peu compliqué, mais on s'est fait vite. Et c'est un son génial. Bon, pour l'orchestre, c'est super. Après, pour le répertoire solo, c'est pas assez tendu. C'est pas assez. Enfin, mais pour la musique d'orchestre française, c'est génial.
Philippe Mottet disait que l'instrument, donc cet arpeggione, est un peu hybride, avant qu'il y ait eu cette brève période
Exact.
de vie au début du 19e siècle, est plutôt destiné au violiste, ou c'est Paolo Pandolfo qui lui glissait ça, parce que le jeu d'archet ressemble plus à celui de la viole. Expliquez-nous un peu les différences à mi-chemin entre la façon de frotter l'archet sur les cordes d'un violoncelle ou d'une viole.
Alors, en fait, la similitude entre l'arpeggione et la viole, moi je dirais c'est plutôt plus les six cordes et le principe d'accord avec les doigts, la main gauche. Par contre, l'archet, en fait, c'est comme un violoncelle. Donc là, ceux qui n'ont jamais fait de violoncelle, pour les violistes, c'est beaucoup plus difficile pour le coup.
Ça existe d'ailleurs en parenthèse des violistes qui n'ont jamais fait de violoncelle.
Ah, bien
Maintenant, ça a
sûr.
commencé aujourd'hui, hein.
Oui,
C'est
oui.
très, très récent, j'imagine.
En France, ça fait déjà quelques années. Moi, je connais des gens qui ont commencé à 11 ans la viole, qui sont venus à la Scola. Non, qui ont fait du piano et puis qui se sont mis à la viole à 11 ans. Et à Paris, surtout, Maintenant, en France, il y a pas mal de bonnes classes. On commence avec des petits instruments, des dessus de viole, et c'est adorable.
On pense évidemment à Tous les matins du monde
Voilà.
où on faisait construire, Sainte-Colombe faisait construire spécialement une petite viole pour sa fille.
Voilà, mais en fait, ça existait bien avant, déjà avec le consort anglais, tout simplement. Là, dans Sainte-Colombe, c'est surtout la septième corde, la basse de viol, avec cette fameuse septième corde qui est apparue et qui donne vraiment tout son répertoire à la musique française de la viole. Mais non, le.
Oui, vous disiez, pour revenir peut-être à
Oui.
l'arpeggione, un petit peu, je vous ai
Voilà,
égaré à mes
exactement.
chemins.
Donc, ce sont les six cordes. On va
Oui.
pouvoir entendre. Alors, la viole de gamme est accordée en ré. Donc, je fais du haut vers le bas. Et la septième corde, cette corde grave. Donc là, c'est un accord 415. Et là, j'arrive à l'arpeggione qui s'est accordé en guitare. Voilà, donc avant on avait Ré, La, Mi, Do, Sol, Ré, La. On arrive à Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi.
Il semble que même...
Comme la vraie guitare.
Ah voilà. C'est la table qui fait vibrer les chevilles. Hein. Oui, il me semble que même la résonance ressemble un peu à celle de la guitare avec les cordes à vide comme ça.
Exactement. Là, et on peut tout de suite entendre aussi... Alors avec l'archet, bien sûr, c'est très différent. Et l'arpeggione, comme l'explique Stauffer, c'est une guitare-violoncelle. Donc finalement, le son se rapproche, je dirais, plus de la viole de gamme, mais la tenue de l'archet, par exemple, se tient vers le haut, comme ça.
Vers le haut, ça veut dire plus haut, plus que différemment
alors,
de violoncelle.
On prend l'archet, pas sur l'écrin, pas comme ça.
Voilà. Comme le font les violistes hein, sur
comme
l'écrin.
Comme le font les violistes. Le violiste ferait ça.
Voilà, en poussant et depuis voilà,
en l'archet poussant depuis
horizontal.
Là-bas. Ça, c'est le principe de désaccord de la viole, que je pourrais vous montrer plus tard. Et là, tout de suite, l'archet, c'est la même chose. On peut faire comme ça. Par contre, le temps fort se joue en tirant. Et on prend la baguette vers le haut.
Et ça, c'est Stauffer, le fabricant lui-même, qui l'indique ou comment est-ce que vous avez fait pour choisir le bon archet pour cet instrument qui n'existe pratiquement pas?
C'est expliqué dans les descriptions de cet instrument. Donc c'est comme une guitare, un peu plus gros qu'une guitare. Par contre, on tient l'archet à la manière d'un violoncelle. Donc ça, c'est bien précisé, guitare-violoncelle. Guitare avec archet...
Et cet archet qui a donc une pointe aiguë, comme les anciens archets baroques, voilà. Vous l'avez choisi comment? Alors vraiment, d'après des modèles dont on sait qu'ils étaient utilisés
alors,
par les joueurs d'arpeggione.
Aujourd'hui, j'utilise mon archet baroque de violoncelle baroque. Mais pour le concert en août, là, j'ai utilisé un archet classique, que je n'ai pas là tout de suite, c'est la Scola qui l'a récupéré. Donc c'est encore une courbure un peu différente. C'est moins gros au talon et puis ça se rapproche beaucoup plus de l'archet moderne qui est comme ça.
Alors on va essayer de le décrire, donc qui a une courbure concave, c'est ça, ouais. Par rapport à et les bois sont assez différents ou si c'est le même bois?
Non,
il est un peu plus foncé, votre archet ancien.
Oui, ça c'est pas celui-là, c'est un très bon archet, celui-là moins bien. C'est un bois d'amourette très souvent. Alors non, très souvent la bois d'amourette pour les archers baroques, et là c'est du pernambouc pour l'archer moderne.
Qui est un bois exotique, c'est
voilà,
ça.
Un bois brésilien, si je ne me trompe pas. Voilà. Par contre ici, la grande différence avec un archer moderne et un archer baroque, c'est qu'on ne touche pas l'écrin. On le prend tout de suite directement ici.
Ouais, parce que les crins sur l'autre archet vont jusqu'au bord, hein, tandis que là, ils s'arrêtent avec, avant le, comment on appelle cette pièce,
le talon.
Le talon.
Voilà, la crosse, le talon. Et moi, je joue comme ça, très souvent.
Vous me dites que celui-là va un petit peu moins bien, naturellement tendance à jouer avec l'autre.
Il est trop lourd, par contre.
Ah, oui.
Et l'intermédiaire, je ne l'ai pas, là, tout de suite. Mais... On s'accommode très bien avec celui-là.
C'est des détails en fait, mais c'est ce qui dépend plus de l'historicité ou bien de...
Oui, aussi de l'historicité. Celui-là, il est un peu trop vieux. Au début, il va bien au niveau du 18e. Par contre, début 19e, il est déjà un peu dépassé. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et, et je ne l'ai pas utilisé pour le concert. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, je ne l'ai pas, mais... faire avec, je peux vous montrer, je peux vous faire quelques sons. Alors, l'arpeggio, donc là, non, je fais un peu. Donc, ça, c'est l'accord de mi majeur, comme à la guitare. Et que je fais. Donc très un son clair.
Par rapport à la viole, c'est vrai, par exemple.
Alors, je vais vous montrer la viole. La viole aussi a un son beaucoup plus clair, mais pas aussi cristallin. Et là, par contre, ce côté, là, ça fait... Moi, j'ai l'impression que ça fait une guitare électrique. C'est un peu... C'est très agréable à jouer, en fait. Et par contre, la grosse difficulté que j'ai rencontrée pour jouer, pour apprendre cet instrument, c'est que la sonate de Schubert est en la mineur. Il n'y a pas de la corde à vide. Et alors que normalement, on est habitué avec un violoncelle à jouer avec un la. Et c'est une toute autre nature. Il faut apprendre les doigtés de guitare. Il faut...
Mais on est sûr qu'il n'y avait pas une scordatura pour l'instrument qu'a imaginé Schubert.
Alors, on n'est pas sûr, mais dans tous les traités que j'ai lus, c'est bien précisé que c'est accordé comme une guitare, donc il faut qu'on apprenne. Et en fait, à force d'avoir travaillé cette sonate, finalement, je me rends compte que ah oui, c'était bien prévu pour cet instrument. Au début, il faut oublier qu'on a toutes ces... tous ces réflexes de violoncelliste ou d'altiste, parce que la sonate est très souvent jouée aussi à l'alto. Mais ça donne des résultats assez fascinants, finalement. Au début, la sonate, par exemple, on n'arrive pas avec une corde à vide. Donc par exemple, c'est la do, dum, bim. Je joue en fait les doigtés de guitare comme si je mets les doigts entre deux cordes. Par exemple, j'utilise ces deux cordes et au milieu il y a cette corde là. Et si jamais je touche malencontreusement ou volontairement cette corde, j'aurai déjà le bon accord. Si j'utilise pas le doigt.
Vous gardez le doigt sur la position du La pour qu'il résonne
La position du La mineur. Mm-hmm. Donc il faut vraiment beaucoup plus penser en harmonie. En
guitariste finalement, en tenant un accord.
Bon, à la viole, c'est plus ou moins pareil. Donc ça, les réflexes de viol, sauf que c'est pas les mêmes.
Mais c'est une très belle sonorité, en tout cas là je suis tout près de vous. Le récital que vous avez donné, c'était dans l'église de Gruyère. Hein, c'est une immense voûte, et puis je pense qu'il y avait du monde. C'est pas un instrument spécialement destiné à des grandes salles, hein, j'imagine. Ça résonne
bien. Étonnamment, ça a beaucoup sonné, et avec j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué avec Grégor Kamensin, et c'était formidable avec lui.
Qui est un pianofortiste.
Voilà, hein. Exactement. Et c'était une belle expérience, parce qu'il n'avait jamais joué sur ce pianoforte, comme ce n'était pas, le sien. D'autres pédales, pas les pédales sur le sol, mais des pédales avec les genoux. Donc pour lui, c'était aussi une expérience nouvelle.
Beaucoup de répétitions, alors j'imagine. Là-bas, vous avez répété un peu là-bas. C'est dans l'église ou dans la salle ?
Répété, oui, un peu d'abord dans l'école, dans l'Institut de la Gruyère, où on était logés. Et puis, on a fait une répétition dans l'église et un petit raccord l'après-midi.
Très bien. Beaucoup de souplesse est demandée aux instrumentistes qui jouent sur un instrument historique, alors Amélie Chemin.
Eh bien, oui, il faut s'adapter.
Ça, c'est le premier arpeggio que vous tenez de les mains. Ou bien, oui. Il y a d'autres instruments qui existent au monde, pas beaucoup,
alors,
hein, je crois, des jouables actuellement.
Il y a une douzaine d'instruments qui sont dans les musées. Ça, c'est celui que j'ai. Là, c'est une copie de Anton Mitis. Et,
donc, il n'a pas été fait par Stauffer. Il y avait en tout cas eu plusieurs facteurs qui ont repris cette idée de la guitare violoncelle.
Voilà. Et même que 20 ans avant, en Hongrie, je crois, il y avait déjà eu un spécimen de cette sorte qui était apparu. Mais c'est Stauffer vraiment qui a déposé sa marque.
Et puis ça a duré une vingtaine d'années, une génération à peu près.
Alors,
ça disparaît.
Oui, ça a duré 30-40 ans maximum.
Et on le ressuscite en fait à cause du chef-d'œuvre de Schubert. Ouais. Ou bien est-ce que vous avez trouvé d'autres littératures, Amélie Chemin, pour jouer sur cet instrument ?
Pas encore, mais je vais chercher parce que je suis très intéressée par... Alors je sais qu'il y a Birnbach qui aurait écrit Alors, peut-être un concerto, je sais pas, mais en tout cas une pièce pour arpeggione et orchestre. Donc ça, je vais aller dans les bibliothèques chercher.
Un compositeur qui s'appelle Birnbach, que je ne connais pas.
Birnbach.
Quelqu'un d'important, c'était lui-même un violoncelliste.
C'était un joueur d'arpeggione.
Ah oui.
Et puis sinon, bah, bien sûr, il y a Vincent Schuster qui a écrit une méthode.
Qui était le guitariste de Schubert. Hein.
Voilà, qui a créé finalement cette sonate arpeggione aussi. Mmh. Et sinon, il y a eu aussi d'autres œuvres. Alors, les arrangements réalisés par des arpeggionistes, donc des œuvres de Diabelli, Burgmüller, Romberg, très souvent joués au violoncelle, et Spohr. Voilà, et puis sinon, Birnbach. Voilà.
Très bien.
Concerto pour arpeggione et orchestre de Birnbach.
Alors, peut-être que ce nom va ressurgir dans les manuels d'histoire de la musique, parce que grâce à vos instruments qui renaissent. Alors. Cet instrument revient de l'atelier de Philippe Moterio maintenant, parce qu'il l'avait révisé après votre récital là-bas. Quel a été le travail qui a été fait, Amélie Chemin?
Alors, il y a eu un problème de barre. La table s'est affaissée pendant cet été. Et donc, la pression exercée par le chevalet et les cordes a fait que la barre s'était affaissée. Donc, il a remis une barre beaucoup plus solide en dessous. Donc, les barres, c'est deux petits c'est des morceaux de bois.
Des pièces transversales qui vont dans la longueur de l'instrument, voilà. Qui soutiennent la caisse.
Voilà, c'est surtout
qui soutiennent la table barre, ici.
C'est surtout une pièce de bois comme ça qu'on voit ici. Voilà, l'instrument n'est pas complètement terminé. Philippe veut encore le revernir. Mm-hmm. Donc on voit quelques petits morceaux de colle encore, parce que ça...
Voilà, il est assez mat, donc et puis il a cette très très belle
éclisse ondée. Il a fallu qu'il roule complètement l'instrument, donc détablé, ça s'appelle. Mm-hmm. Il a défait cette... Et puis après, ce qui est difficile, c'est que de bien ajuster les éclisses, ce sont les bords. Et puis voilà... C'est un gros travail, en fait. Et bien sûr, là, le prochain travail aussi, ça sera de mettre des frettes métalliques jusqu'en bas.
Pour l'instant, elles sont en boyaux.
Alors, pour l'instant, c'est des boyaux amovibles, un peu comme une viole de gambe, donc qui, pour moi, ont été assez... C'était assez agréable, puisque... Donc, ça ne m'a pas trop changé de la sensibilité, surtout au niveau de la main gauche par rapport à... Oui, par rapport à cette sensibilité qui est assez... Donc les cordes en boyau comme la viole, et puis aussi les frettes en boyau. Par contre, après, là, ce sont des frettes en ébène.
Qui sont comme gravées donc, sur la touche.
Voilà, donc ils sont collés. Fait sur la touche. Et le prochain travail, ça sera d'enlever ces frettes en boyau, et d'enlever ces frettes en ébène, et on mettra des frettes tout le long du manche, et aussi... Pas en zigzag, là, enfin, pas en biais comme c'est tout de suite, enfin, pour le moment, ça sera tout le long du manche.
Ce sont des frettes fixes alors.
Voilà. Donc pour la justesse, c'est un peu délicat puisque les cordes en boyau s'abîment très vite et donc deviennent rapidement fausses. Donc l'avantage des frettes en boyau, c'est qu'elles sont amovibles et donc on peut bidouiller quelque chose. Enfin, on peut. Bricoler quelques...
Ça va ressembler encore plus à une guitare, alors. Mais vous jouez de la guitare, vous avez cet instrument
alors,
ici,
non,
mais...
Enfin, j'ai découvert... Enfin, je commence à prendre des cours. Avec une amie espagnole, Maria Ferré, qui est très forte, qui fait du... En fait, elle fait du luth et du théorbe, la guitare baroque, et aussi, elle a commencé en tant que guitariste moderne, et elle m'apprend à faire des accords. Donc,
pour le plaisir, alors, voilà, ou bien pour
Et on va chanter du Brassens. Elle veut apprendre le français. Donc, moi, elle me donne des cours de guitare et je lui donne des cours de français.
Musique en mémoire. Philippe Moterio, luthier.
Suivant où vous frappez, Philippe Moterio, on peut sentir la résonance et justement la qualité de la caisse.
Si on connaît bien le modèle, si on l'a déjà construit plusieurs fois, oui, on pourra dire « Ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien », ou bien « un peu trop ». trop bas, souvent un peu trop. Mais comme ce modèle pour moi est tout à fait nouveau, la fréquence de base de la caisse, je ne la connais pas, donc je ne peux pas du tout dire comme ça. Autre chose que, oui, c'est assez sonore, c'est une sonorité très claire, assez courte. Donc les percussions pour les pièces de musique, souvent c'est sur le chevalet ou sur les éclisses. Un bruit beaucoup plus clair, plus aigu, plus sec, souvent avec les ongles. Et Luthi n'aime pas trop ces pièces où la guitare est considérée comme instrument de percussion.
Et même dans la musique ancienne, on voit souvent des improvisateurs ou des gens qui recréent de la musique non écrite, baroque ou plus ancienne, faire quelques percussions, des rasgueados aussi, des choses comme ça.
Là, le rasgueado, donc l'art de racler les cordes, vu du point de vue du luthier, souvent c'est l'art de racler aussi la table. Et le vernis, c'est pas très bien venu.
C'est peut-être pour ça qu'on a inventé cette guitare à archer, finalement, je t'ai offert, donc c'est luthier, pour éviter que...
La raison. Mais vous avez peut-être déjà vu des guitares de flamenco. Il y en a une là sur la table, on y colle une petite plaque de protection en plastique autour du chevalet pour éviter d'abîmer le bois et le vernis. Ouais. Golpeador, ils appellent ça. En Espagne, c'est vraiment là où on peut donner les coups. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une invitation à donner des coups, justement.
C'est très délicieux pour décoller les bras.
C'est joli, hein?
C'est ça, en tapant là-dessus. Excuse-moi. C'est exactement ce qu'il faut faire pour décoller les barres à l'intérieur. Oui.
Ouais.
Surtout celle qui est sous le chevalet, s'il y en a une. Si on veut la décoller, on fait comme ça, quoi.
Et un travail de restauration, s'il faut recoller des barres, et on doit rouvrir l'instrument, mais par le fond, c'est ça.
Le plus souvent, il faut détabler, enlever la table, ou enlever le fond. Certaines réparations se font depuis le trou de la rosette, mais c'est vraiment pas facile à faire.
Parce que Maurice Sautiguerre disait que une guitare est un instrument qui se démonte moins facilement qu'un violon. C'est pas prévu pour le collage est moins prévu pour être ouvert.
Dans le cas du violon, on peut vraiment dire que c'est prévu pour. Vraiment, il y a un bord de table qui déborde de la couronne de l'éclisse. Et puis on colle en général la demi-colle, c'est-à-dire une colle assez liquide, avec pas mal d'eau, pour faciliter l'ouverture avec un couteau trempé dans l'eau chaude. Et c'est courant de d'établir un violon, d'établir une guitare, non, pas du tout.
Cet instrument donc, dont la caisse est bientôt prête, alors Fidimo Terrio, est une imitation, enfin une copie de ces guitares de l'atelier de Stauffer à Vienne au temps de Schubert. Et c'est de ces ateliers qu'a été inventé cet instrument très spécial qu'on connaît très mal, ou peut-être un peu mieux maintenant, qu'on appelle arpeggione, mais je crois que c'est même pas sûr que ce soit son vrai nom, guitare à archer, et qui a été utilisé dans la fameuse sonate de Schubert.
Voilà, il porte plusieurs noms, effectivement, mais on voit bien en prenant la caisse de cette guitare qu'elle est... En fait, c'est une caisse d'arpeggio née en plus petit. L'instrument de Stauffer a été modelé d'après cette forme-là, avec la même courbure, la taille assez marquée, les mêmes proportions. Elle est 15 cm plus grande et elle rejoint donc la grandeur du violoncelle.
Elle a un fond plat également.
Elle a un fond plat avec tout de même une espèce de chute comme ça du côté du manche, comme sur les viols de gambe. Cette forme de 8, c'est celle de l'arpeggione, et il n'a donc pas les C ni comme la viole ni comme le violoncelle, mais il est assez étroit pour le passage de l'archet. Par contre, il n'a plus la bouche ouverte en rond comme une guitare, comme ça. Il a des espèces de C.
Des ouïes en forme de C, un peu comme la violoncelle.
Comme sur la viole, encore une fois. C'est un instrument finalement plus proche de la viole que du violoncelle.
C'est un essai de réinventer la viole de gambe qui avait complètement disparu en 1820
Peut-être, ça c'est une possibilité. Moi je pense que c'est un agrandissement de la guitare. Et puis une manière de mettre les cordes comme un instrument à archet pour proposer un instrument qui soit joué par les guitaristes. Puisque l'essentiel, en fait, c'est d'avoir sous les doigts 6 cordes qui sont accordées comme sur une guitare.
Mais qu'on joue avec l'archet principalement.
Oui.
Et vous en avez construit un, Philippe Mauthériault.
Voilà, qui sera joué au dernier concert de l'atelier, 6e édition de l'atelier de musique ancienne ici à Gruyère. Et effectivement, la caisse est construite en tout point comme celle d'une guitare. Voilà. Une différence quand même, une différence sensible, c'est que la table est voûtée. La table est voûtée comme celle d'un violoncelle ou d'une vielle de gambe, alors que la guitare a les deux surfaces plates.
Et c'est un instrument donc qui est rare, qui a vécu très peu de temps. On connaît pas de répertoire sauf cette sonate de Schubert.
Oui, voilà, ça résume l'essentiel du répertoire pour arpeggio. Il y a quelques chansons, ou trois pièces, ou trois nocturnes, dénommé Burg Müller, un compositeur qui s'appelait Vincent Schuster, qui était guitariste, qui a aussi écrit quelques pièces pour cet instrument-là, mais vraiment très peu de choses. Et puis, Vincent Schuster, qui est un peu à l'origine du projet de construction de l'arpeggio, avait pour ami Franz Schubert. Les deux étaient très proches, et puis ça c'est un petit peu le coup de chance de Stauffer d'avoir pu profiter de l'œuvre de Schubert pour faire un peu de la propagande, de la réclame pour son nouvel instrument que lui appelait guitare violoncelle. Elle s'est appelée guitare d'amour, guitare à archet. Et en fait, le mot d'arpeggio, et la première fois qu'on le voit, c'est en titre de la sonate de Schubert.
Qui a été publiée du vivant Schubert?
Non, elle a été composée en 1824. Elle a été immédiatement créée par Schubert au piano et Vincent Schuster, justement, sur le nouvel instrument de M. Stauffer, l'arpeggio. Ensuite, elle est complètement oubliée, c'est resté un manuscrit oublié. Elle sera éditée en 1871 seulement, dans une version librement adaptable pour l'alto, le violoncelle. Et puis aujourd'hui, elle est jouée à l'alto, au violoncelle ou à la contrebasse. J'ai entendu une version à la clarinette. Disons, sur les instruments à archet de l'orchestre, que ce soit l'alto ou le violoncelle, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus que 4 cordes, alors que l'original est vraiment écrit pour 6 cordes, qui sont accordées en quarte, donc des écarts de main beaucoup plus restreints que si on a un accord en quinte sur 4 cordes. Ça, c'est une grande différence.
Et Amélie Chemin, qui va venir jouer l'arpeggio ici à Gruyère, comment est-ce qu'elle est venue avoir cette curiosité? Elle est violoncelliste, elle est guitariste?
Elle est violoncelliste au départ, mais quand je l'ai rencontrée, elle terminait ses études à la Scola comme gambiste. Donc elle joue de la viole de gambe. Et cet instrument, au départ du projet de notre atelier 2008, on a eu une discussion avec Paolo Pandolfo, qui prof de viole de gambe à Bâle, qui lui pensait que c'était un instrument idéalement adapté aux violistes, qui ont sous les doigts 6 cordes, et non pas 4 comme le violoncelle, qui ont donc l'habitude de passer l'archet sur la courbe peu marquée du chevalet de la viole de gambe, qui est la même que sur l'arpeggio. Et bon, c'était intéressant parce qu'elle est toujours jouée par des violoncellistes, de l'entendre sous les doigts de gens qui jouent la viole de gambe. Voilà. Donc Amélie, c'est une fille qui travaille maintenant cet instrument depuis une année, et puis qui s'est adaptée à son jeu. La question, c'était de savoir si elle allait tenir l'archet comme les violistes de l'intérieur ou depuis l'extérieur avec une main posée comme celle du violoncelliste, ce qu'elle a finalement décidé de faire.
Pour on ne sait pas comment ça se faisait à l'époque.
Sur la corde et sur l'aspect mélodique de la musique. Alors non, évidemment, on n'a aucun témoignage sur comment on jouait de l'arpeggio. Je pense que très peu de gens ont joué à l'époque. Ils s'en est construit... ça c'est un point d'interrogation, mais il en reste une petite dizaine aujourd'hui. Ça n'a pas eu un succès énorme sur une dizaine d'années.
Dans des musées, c'est des instruments de musée aujourd'hui, c'est des instruments de Stauffer. Et quelques copies, alors, dans celles que vous avez faites, c'est sur celles-là que s'entraîne Amélie Chemin.
Voilà, exactement. C'est un instrument, pour moi, c'est vraiment celui qu'on a sous les yeux ici, la guitare de Schubert, agrandie, et munie d'une table sur laquelle on peut poser des cordes à jouer avec un archet.
Voilà. Justement, l'archet de l'époque, on peut, j'imagine qu'à sa forme, on peut savoir si on le jouait par devant ou par derrière. C'est encore des archets proches des archets baroques.
Voilà, il n'y a pas d'arpeggios qui se sont conservés dans des musées avec leur étui et dans l'étui l'archet qu'on utilise. Donc, pour avoir essayé les deux manières de jouer l'archet sur l'arpeggio, et Amélie a choisi la tenue du violoncelliste.
Il y a plusieurs de ces copies qui existent aujourd'hui, qui commencent à être jouées par les instruments. Je crois que c'est très difficile de trouver un enregistrement de cette sonate pour arpège et Schubert si connu sur l'instrument original.
Moi, j'en connais trois, donc à partir de deux, ça fait plusieurs, oui. Ça fait plusieurs, mais il ne doit pas en exister beaucoup, beaucoup plus.
Et vous, Maurice Ottiger, ça vous a tenté de faire un arpège? Vous avez déjà eu?
Non, ça ne m'a pas tenté dans le sens qu'il n'y a pas eu la chose qui fait que... C'est-à-dire l'assemblage d'un musicien qui m'aurait demandé, il n'y a pas eu l'occasion en fait.
Et vous, Philippe Motério, vous l'avez fait comme ça ou vous aviez déjà quelqu'un qui s'y intéressait?
Qui s'intéressait à l'acheter? Non, en fait, le point de départ, c'est mon intérêt pour le construire. Suite à une discussion avec Paolo Pandolfo, puis avec d'autres violistes, ils trouvaient, eux, que c'était très très bien de voir une fois un arpeggione construit par un fabricant de guitare et non pas de violoncelle. Parce que c'est vraiment plus un instrument, du point de vue de sa construction, proche de la guitare.
Et là, c'est des plans qu'il faut établir tout vous-même à partir des instruments. Vous allez dans les musées pour prendre des mesures. Comment ça se passe?
Alors là, j'avais le choix, soit aller à Paris où il y a un original de Staufer, ou bien j'ai trouvé finalement dans un musée un plan déjà dessiné par un autre luthier. C'est à Berlin. Alors c'est un arpeggione de Anton Mitteis, près de Vienne. Donc c'est pas un Staufer, mais les instruments sont absolument pareils. Et puis je me suis servi de ce plan et de toutes les photos que j'ai pu réunir pour construire un instrument qui est assez fidèle à l'original, je pense. Ouais.
Là, c'est en travers. Là, j'ai
un mail de...
Jean
Malin. Oui, c'est Jean Malin, mais il y a un mot pour dire que j'ai cette année.
Je crois que c'était ce que j'ai fait. C'est peut-être faire des enseignements, c'est un avant-programme.
Moi j'aurais trouvé bien parce que c'est vraiment d'entendre les deux versions de l'innovation de l'autre.
Pour l'arpeggione, alors pour cette guitare violoncelle à mi-chemin, vous avez des projets futurs? Il y a d'autres concerts qui vont être donnés, à part étudier donc ces partitions de Björn Bach qui dorment dans on ne sait quelle bibliothèque?
Dans les bibliothèques. Alors oui, j'aimerais refaire ce principe de concert comparatif avec la sonate arpeggione, jouée par l'arpeggione et pianoforte, et aussi la même sonate jouée par le violoncelle.
C'est mieux avec les deux versions, vous trouvez, ou
l'arpeggione, c'est pour le présenter? À Gruyère, ça, c'était assez fascinant. Les gens étaient très contents.
Mais on juge pas plutôt la qualité des deux interprètes que celle des deux instruments?
Non, je crois pas. Enfin, bien sûr, oui, mais pas seulement. C'est vraiment une différence de son assez incroyable et... C'est assez curieux, en fait.
Quelle est la différence? Comment vous décririez alors la différence de sonorité entre le violoncelle qu'a joué Didier Poskin et cet arpeggione, cette guitare violoncelle alors... authentique, entre guillemets?
Ben, un son déjà beaucoup plus clair, finalement, à l'arpeggione. Et un son, je dirais, chaud, plus rond, plus sombre au violoncelle. Bon, mais ça, c'est très objectif.
Ça veut dire que la vision qu'on a un peu de cette sonate, on la connaît toujours par les enregistrements de violoncelle, est plus sombre qu'elle devrait l'être. Schubert est plus léger, peut-être, que la partition.
Oui. C'est une relecture de la sonate, notamment le troisième mouvement, qu'on joue d'habitude très souple, très beau, très pensant des grandes lignes. À l'arpeggione, en fait, on réalise que finalement, c'était... Moi, j'ai lu différemment cette sonate en pensant à des accords beaucoup plus champêtres que...
Plus vite, alors, peut-être?
Non, pas forcément plus vite, mais non, peut-être même plus lentement, mais avec une certaine un côté plus paysan, plus villageois, le côté tam tirum parim biri. Et justement, il y a des accents, toutes les notes, toutes les mesures, et très souvent, normalement, en violoncelle, on aurait tendance à jouer. Jouer comme ça. Par contre, là, c'est à chaque bar, à chaque mesure, il y a un accent et on pourrait faire. Et après, l'accord de mi majeur.
On pourrait, mais est-ce qu'on le fait? Vous l'avez fait au concert?
Alors non, j'ai pas osé, mais ça ne saurait tarder.
Ça veut dire qu'il faut probablement rajouter une
oui,
certaine.
Oui, comme ça se faisait très souvent à l'époque. En tout cas, le principe des accords peut très très bien complètement fonctionner.
Il y a beaucoup de passages pizzicati aussi dans
Alors,
cette partition.
Non, dans le premier mouvement, il y a un passage. Ça, c'est. Alors, soit on joue plus fort, ou alors très très perlé, ça, c'est. Il n'y a pas beaucoup
Et les indications sont précises de Schubert. On sait qu'on ne doit pas jouer pizzicato ailleurs,
oui.
Même si on a une
ouais.
guitare entre,
si,
guillemets,
si,
entre
si,
les
si.
Mains.
Ça, c'est très précis. Ça, c'est plutôt pensé comme le reste des instruments à cordes frottées.
Peut-être vous me parliez tout à l'heure de nous le montrer. On pourrait écouter un petit peu la différence avec une viole. Alors maintenant, sur des.
Alors, par exemple, je vous fais un accord de. Mi majeur. Je vais faire un accord de.
Vous gardez le même archet alors. Non, avec un autre archet.
Avec un autre archet, oui.
Ah oui, parce que la viole se frotte très différemment. Hein. Vous mettez les doigts contre
les
cordes. On sait quand même pas les Chinois qui ont inventé la viole de gamme.
Ah, qui sait? Et vous dites, c'est assez.
Il y a des instruments qui ressemblent à la tradition chinoise.
Parce que la viole de gamme, ça, vous allez en Orient, tout le monde joue du violon comme
en
ça.
En tenant les archets de cette façon. Ouais.
Les contrebassistes, ils sont encore l'archet vers le bas. Des arpèges comme.
Oui, la viole, s'il faut le décrire, c'est toujours difficile de décrire un son, mais on dirait que c'est un peu plus pincé, peut-être un peu plus nasal que la guitare violoncelle de Schaffer ou de Mitis que vous avez joué avant, mais aussi un son quand même plus de résonance, il me semble.
Alors,
la caisse
oui,
est plus grande.
La caisse est fabriquée différemment et oui. Donc c'est un son pénétrant, mais aussi un. Beaucoup de. Et cette. Ça, on n'a pas.
Oui. Mais là, vous jouez spécialement une musique un peu plus grave, peut-être. Hein? On a moins
oui,
envie de jouer grave
que.
Sur la guitare.
Depuis une semaine du violoncelle baroque, et là, je suis désolée, ça fait c'est complètement différent. Et il arrive des.
Il faut beaucoup de temps pour vous adapter à l'autre instrument,
au
quand même.
10 minutes, 5
heures. Ah oui, oui. Et puis alors, on reprenait peut-être l'arpeggio
oui,
pour.
Alors, je vous montre juste
oui.
On remet le son
arpège jaune, qui est vraiment une forme de grosse guitare avec ses épaules très rondes, hein, comparé au...
Si ça vous dit.
Très bien, effectivement. Hein.
Oui, je l'ai utilisé en... juste avant le concert de Le Gruyère. J'ai fait un petit... On a fait un festival de rue en Italie avec un accordéon.
Avec une chanteuse aussi ou...
Non, tous les deux, accordéon et arpeggio.
Très bien. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'harmoniques. Hein, que...
Oui. Et surtout, c'est... finalement, c'est un... Enfin, là, je réalise parce que je ne l'ai pas joué pendant plus d'un mois. Bon, et aussi avec l'archet qui est plus lourd que celui que j'avais, les repères sont différents et c'est moins fin que ce que j'ai joué à Gruyère. Mais ça reste une interprétation différente par rapport à la finesse du jeu et aussi à l'articulation surtout, de par les boyaux aussi.
C'est assez analogique alors à ce que fait un pianofortiste qui change d'instrument par rapport à un piano moderne.
Exactement, oui.
Donc ça s'allie parfaitement avec l'instrument, l'instrument de l'époque de Schubert.
C'est formidable. Oui, à jouer avec un piano moderne, ça serait impossible.
Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli ici.
Merci
à Manichemin. Et puis bonne suite avec cet instrument et les autres.
Bah, il va repartir chez Philippe, là.
Oui, qui a d'autres projets pour lui.
Oui, alors d'abord, bon, le vernir et puis ajouter ses frettes en métal. Et puis aussi, il y a quelqu'un, un violoncelliste, qui serait intéressé. Donc, il va rester normalement dans l'association Guitare et Lutte. Et puis, voilà, il sera à disposition des gens qui seront intéressés.
Et vous aurez l'occasion
alors,
de le reprendre.
J'espère pouvoir le rejouer et organiser d'autres concerts. Avec cet instrument.
Son origine est bien claire avec la grue qui est marquetée là ou simplement dessinée sur la tête.
Non, marquetée. Ouais. Je crois bien. Oui, c'est en.
C'est de l'ébène.
Oui.
Vous voulez jouer un petit bout de la sonate peut-être.
Par exemple, le début du deuxième mouvement, c'est très beau aussi.
Thank you.
C'est Amélie Chemin qui vous présentait cet instrument si étrange, cet arpégione David Mestri dans cette émission Musique en mémoire. Et c'est Nicolas Delotaille qui l'a interprété quelques accents de cette sonate pour arpégione et piano en la mineur de Franz Schubert. Nicolas Delotaille donc arpégione, le pianoforte lui était touché par Paul Badura-Skoda. Et Nicolas Delotaille, comme Amélie Chemin, passe volontiers d'un arpégione à un violoncelle, là en l'occurrence, celui du quintet à cordes en do majeur du même Franz Schubert, entouré qu'il est par le quatuor Rosamonde.
Thank you.
le scherzo du quintet à cordes en do majeur de Franz Schubert par Nicolas Delataille, violoncelle, et le quatuor Rosamonde. Pour conclure cette émission, David Mestri, demain on retourne dans le cadre de l'atelier de musique ancienne de Gruyère, sixième du nom tel qu'il a eu lieu en août dernier.
Pour voir la fin de la construction de cette guitare et puis quelques derniers accents de la classe de maître donnée par Rafaela Smits.
Cette émission Musique en mémoire peut compter chaque jour de l'année sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et cette semaine, David Mestri, cette série est réalisée par Jean-Daniel Motet. C'est une proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse. C'est plausible. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit. Dès minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2, même si nous, c'est bien donc demain que nous retournerons une nouvelle et dernière fois à Gruyère pour quelques nouveaux accents de cet atelier de musique ancienne. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Tenez pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace.